Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts In a Life. Je suis très heureuse de vous retrouver, très très excitée. J'aimerais juste, avant de commencer le sujet, je vais vous confesser quelque chose. C'est extrêmement difficile pour moi de revenir. Je me sens dans un inconfort assez excitant en même temps, mais il y a comme un truc où je me dis, c'était tellement la routine pour moi, jadis, de faire des vidéos, de faire des podcasts, etc. Aujourd'hui, je comprends pas que ça me déstabilise autant et que ce soit aussi challengeant de poser mes fesses sur une chaise, de cadrer correctement, de gérer le micro et on y va mon petit. Mais effectivement, ça l'est. C'est devenu comme un challenge que j'aime bien relever. Ça m'excite beaucoup. Donc voilà, juste je voulais vous raconter ça parce que tout n'est pas toujours facile, même quand on a eu beaucoup l'habitude de le faire. Mais il y en a qui disent c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Bueno, parece que si. On dirait que c'est le cas. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir. Je prends toujours. Ouais, c'est genre. Vous savez, c'est comme se sentir exactement à sa place. Exactement à sa place. Je me sens dans mon centre, en fait, quand je fais ça. Et se sentir dans son centre, on l'a vu dans le podcast récemment, c'est genre le meilleur qui puisse nous arriver, n'est-ce pas? Bueno, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode des podcasts In a Life. Je suis Safia Ayad, je vous accueille et merci d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie que l'on parle de 5 mythes sur la pratique spirituelle. Alors déjà, on va mettre des gros guillemets sur spirituel. Parce que c'est un mot qui est devenu tellement galvaudé, qui est tellement utilisé par tout le monde et personne, qu'on ne sait plus exactement à quoi ça correspond. Et on a la sensation, je voulais dire, qu'il y a les gens spirituels et les gens non spirituels. Que nenni, ça n'existe pas. Ce clivage entre les non spirituels et les spirituels, c'est une hérésie, ça n'existe pas. Nous sommes tous des êtres spirituels dans la mesure où nous, ça vient de spirit, hein, y a un moment où il faut juste revenir à la racine du mot, nous sommes tous issus d'une certaine forme d'esprit, d'énergie, de ce qui s'incarne à travers nous. Alors, il y a les gens pour qui c'est une évidence et il y a ceux pour qui, pues, non, ils ne sont pas vraiment sensibles à ça, mais ça ne veut pas pour dire, autant dire qu'ils ne sont pas spirituels. Peut-être qu'ils vont se coller cette étiquette-là. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on s'en fiche, non? Que l'on le soit ou pas. Ce qui compte, c'est qu'on est là, incarné dans cette expérience de la matière, dans des corps physiques magnifiques, et qu'on est venu pour expérimenter quelque chose à travers cette matière, mais pas que. Donc, j'avais envie de parler de 5 mythes ou 5 idées reçues que j'ai pu traverser, auxquelles j'ai pu m'accrocher dans ma vie aussi. Et j'aimerais juste qu'on les dégomme ensemble, de manière à ce que ça clean un peu l'espace, que ça nettoie un peu notre champ et que l'on puisse avancer avec encore plus de sérénité dans cette spiritualité. Vous avez bien compris que c'était un mot à utiliser avec de gros guillemets. Le premier mythe, c'est qu'il faudrait méditer ou prier tous les jours. Si tu médites pas ou si tu pries pas tous les jours, enfin, t'es pas connecté, t'es pas spirituel. T'avances pas dans ton exploration. La notion de pratique, on va vraiment mettre ça dans le grand sac de la pratique, c'est quelque chose d'extrêmement personnel et qui peut prendre toutes les couleurs, toutes les formes. On peut être quelqu'un d'extrêmement impliqué dans son exploration et ne pas avoir envie de méditer en tant que tel tous les jours. Et c'est OK, en fait. C'est OK de ne pas avoir envie de le faire. Après, nuance. Parce que dans tous les mythes, il y a quand même une nuance, vous allez voir. Le fait de pratiquer tous les jours nous donne une certaine forme de rigueur et nous permet vraiment de travailler tant sur notre réalité, sur le plan de notre système nerveux, etc., que sur quelque chose de beaucoup... Notre réalité 3D, je veux dire, que sur quelque chose de beaucoup plus subtil, sur notre champ électromagnétique. Donc, c'est pas... parce que je ne médite pas ou que je ne pratique pas tous les jours que je ne suis pas spirituelle ou que je ne suis pas connectée ou que je ne prends pas au sérieux mon exploration. Mais c'est vrai que si je le fais, je vois la différence. Si je le fais, je sens que réellement, ça me permet de rester en mon centre. Ça me permet d'aller peut-être un peu plus en profondeur. Et peut-être même un peu plus vite. Mais on s'en fiche d'aller vite. Et on s'en fiche d'aller en profondeur. Ce qui compte, c'est d'aller là où c'est juste pour nous et de toujours revenir à notre plaisir. Si je ne prends pas de plaisir, que c'est un calvaire de prier ou de méditer ou de faire mon yoga ou de faire mon journaling, si j'ai juste envie de faire autre chose, que j'ai envie de me sortir la tête de tout ça, eh bien, grand bien me fasse. Je dois d'abord respecter ce que je ressens comme étant juste, en étant quand même dans ma toute responsabilité, dans ma toute souveraineté. Je ne le fais pas par caprice. « Oh non, j'ai la flemme aujourd'hui, laisse tomber. » Non, parce que c'est quand même un cadeau que je me fais. Mais en même temps, je ne vais pas me flageller parce que je ne l'ai pas fait tous les jours. Le deuxième mythe est celui qu'il faudrait expérimenter des états de conscience modifiés pour vraiment prendre les choses au sérieux. Les états de conscience modifiés, c'est tous ces états dans lesquels on arrive à entrer à travers la méditation, à travers le breathwork, à travers l'activation d'énergie, à travers l'ayahuasca, etc. Oui, mais non. Oui, mais non, les gars. Oui, mais non. Ces états de conscience modifiés, ils sont accessibles à certaines personnes et dans certains cas. Je peux être une personne très alignée, très centrée et très dévouée à ma spiritualité sans avoir besoin de changer mon état de conscience. L'état de conscience modifié, c'est comme si on voulait faire un pont entre notre personnalité et notre âme. C'est comme si on avait envie d'aller dialoguer plus directement avec notre âme. Et c'est fantastique, c'est génial de pouvoir faire ça. Personnellement, je l'ai pratiqué à travers l'activation énergétique, à travers la méditation, à travers le breathwork. Mais par exemple, je n'ai jamais fait d'ayahuasca. Je n'ai jamais pris de râpé. Je n'ai jamais pris de champi. Simplement parce qu'il y a des pratiques qui me semblent être, me correspondre et il y en a d'autres qui ne m'appellent pas ou ne m'appellent plus. Vous savez peut-être que l'ayahuasca m'a appelée pendant longtemps et aujourd'hui, ça ne m'appelle plus du tout parce que je sais que je peux faire le travail d'une autre manière sans avoir besoin d'ingérer des produits d'une certaine forme toxique. Ça reste quand même des produits qui pour le corps ne sont pas naturels. C'est pour ça que le niveau de conscience est complètement déformé. Mais je n'ai pas besoin d'entrer là-dedans pour être spirituel. Je n'ai pas besoin de tout tester pour faire le tour de la question. La spiritualité, c'est quelque chose d'intime. Je peux rester tous les jours de ma vie à juste faire une pratique que j'ai créée moi, mais qui me permet réellement d'être centrée, de me comprendre, de me respecter et de suivre le chemin de mon âme. Et ça sera parfait. Ça sera absolument parfait. Il y a aussi cette idée reçue qu'il faudrait être entouré seulement de gens connectés ou de gens qui s'explorent, de gens spirituels. Moi, j'ai vraiment cherché ça pendant quelques années. J'ai vraiment cherché à ne rencontrer que des gens avec qui je pouvais parler de ces sujets-là de manière courante, comme je te raconte ce que j'ai mangé la veille au soir. Et finalement non. Parce que la richesse de la vie, c'est aussi de pouvoir échanger avec des gens pour qui c'est les crypto-monnaies, le sujet phare. Et ils ne vont pas du tout te parler de méditation. Alors, il y en a, ils sont capables de te parler de Jésus et de crypto-monnaie en même temps. Moi, j'ai un ami qui fait ça et j'adore ça. J'adore ce grand écart qui est merveilleux. Mais le fait de penser que notre compagnon ou nos amis doivent absolument comprendre ça, c'est prétendre que ce n'est pas complètement intime comme cheminement. Alors qu'encore une fois, ça, on parle là d'une intimité, mais vraiment très, très, très profonde. Donc, je devrais n'en avoir rien à faire que mon entourage comprenne ou ne comprenne pas. Parce que c'est quelque chose entre moi et moi. Mon lien ensuite avec les autres peut être coloré et teinté de ces sujets-là si j'ai envie de les apporter et si ça s'ouvre dans la conversation. Et peut-être que ça permettra à mon entourage de découvrir quelque chose. Combien de personnes ont découvert le yoga ou la méditation parce qu'une autre personne leur en a parlé. Donc il est plus là, le modèle. Il est plus dans, ok, je suis en train d'expérimenter quelque chose de très intime. Et si à un moment, je sens que avec cette personne ou avec, dans telle situation, eh bien, j'ai envie d'en parler, merveilleux. En fait, ça me permet de diffuser le message et de peut-être offrir cette ouverture-là à l'autre personne, tout comme celui qui va me parler de ses crypto-monnaies et peut-être va me donner envie de m'intéresser au sujet, ou pas. C'est très personnel encore. Donc, faites la paix avec ça, que vous avez absolument besoin que votre compagnon ou votre compagne comprenne. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous aurez forcément des amis ou des connaissances avec qui vous pourrez en parler. Mais on n'a pas besoin que ce soit 100% de notre cercle, ni même que la personne la plus proche de nous, c'est-à-dire notre compagnon ou notre compagne, comprenne. Tant qu'il ne juge pas, tout est parfait. Une autre croyance serait celle de penser que pour être spirituel, il faut avoir une alimentation 100% accordée à cette pureté de la spiritualité. Donc avoir une alimentation plus sattvique que tamasique, pour en revenir à l'Ayurveda. La notion de sattva, c'est vraiment cette idée de pureté, d'harmonie. Et évidemment que ça va nous porter dans notre quête spirituelle et dans notre recherche de centre et dans notre bien-être. Mais c'est une évidence que si je vais manger tous les jours des fast-foods et qu'à 4 heures, je me fais des tartines de pâte à tartiner, etc., ben, dans mon corps, je vais me sentir déséquilibrée. Ce n'est pas une question de spiritualité. Là, c'est une question de bon sens et c'est purement physiologique. Après, ça monte au niveau supérieur qui est celui plus subtil de la spiritualité et du bien-être spirituel. Mais avant même de penser à mon bien-être spirituel, est-ce que je ne devrais pas d'abord penser à mon bien-être physique ? Parce que je suis un être spirituel incarné dans un corps physique. Donc mon corps, je dois en prendre soin. Mais je le fais d'abord pour que la machine fonctionne. Et après, la magie opère de manière à ce que ça me porte aussi dans mon exploration personnelle. Et en même temps, c'est comme tout. C'est pas parce qu'une fois de temps en temps, je vais manger un fast-food que c'est foutu, je vais complètement être décentrée, je vais plus réussir à méditer. Ok. Faisons-nous aussi ces plaisirs-là, si on considère que ça, c'est un plaisir. Foutons-nous la paix aussi avec ces règles trop parfaites et trop marquées, parce que plus on se met la pression sur quelque chose et moins on arrive à le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus on met des règles strictes et moins c'est facile de prendre le plaisir de l'action. Ça doit être un plaisir d'être dans l'exploration, ça doit être une excitation, ça doit être une joie. Et si c'est trop marqué, trop strict, mais à un moment c'est un peu le bagne. Donc on n'a pas trop envie de continuer, on a envie juste de se foutre la paix soi-même, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire, allez, moi j'arrête de m'explorer, j'arrête de penser à tout ça, j'arrête de lire des livres comme ça, j'arrête. Et c'est dommage, parce qu'on perd un petit peu une partie de l'expérience humaine. Donc non, on a le droit de manger des trucs dégueux. Et si je mange bien, c'est pas simplement pour mon éveil spirituel, c'est aussi et avant tout pour que mon corps physique, cette machine, fonctionne correctement. Et enfin, il faudrait avoir des aptitudes particulières pour être spirituel ou pour être dans son exploration de manière plus large. Par exemple, il faudrait être souple pour faire du yoga. Il faudrait être déjà avoir un tempérament un peu calme pour méditer. Non, je vous le dis 1000 fois, non. Il y a quelque temps, il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram en me disant « Safia, j'ai commencé le yoga, c'était très récent, il y a quelques semaines, elle avait commencé. » Et elle se confrontait à son manque de souplesse. Et donc, elle me disait « Quel est ton conseil ? Est-ce que tu penses que je devrais faire des exercices de souplesse ? » etc. Je lui ai répondu que le yoga n'avait rien à voir avec la souplesse. C'est génial d'avoir une souplesse importante pour pratiquer parce que ça nourrit notre ego qui a envie d'aller un peu plus loin et puis la souplesse, c'est bon pour le corps physique. Mais en fait, le yoga, il ne demande pas à ce qu'on soit souple. Le yoga, il demande à ce qu'on soit centré. Le yoga, il nous apprend à être centré, à faire le pont entre notre respiration, notre corps, le mouvement. C'est l'union entre tout ça, entre mon état d'esprit, ma pensée, mon mouvement, ma respiration, mon corps. À aucun moment, il est question d'être souple. Et pareil pour la méditation. C'est justement parce qu'on cherche à être plus calme, à être plus présent, à être plus en paix avec soi-même que l'on médite. Il ne faut pas attendre ça pour commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, toute cette histoire de spiritualité, de pratique, d'exploration, ça devrait devenir quelque chose de complètement naturel pour vous. Et ça peut le devenir si vous le désirez, si vous le décidez. On n'a pas besoin de se poser une étiquette de « je suis telle » ou « je suis telle » ou « je suis telle », on s'en fout. On n'a pas besoin de se poser non plus des règles trop strictes. On a besoin de sentir comment c'est bon pour soi et comment c'est bon pour soi de vivre cette expérience-là. Et il y a toujours une part de nous qui va avoir un peu la flemme de faire les choses et une autre part de nous qui va être un petit peu celle qui va remettre sur les rails. Il faut que les deux, elles dialoguent. Il faut que les deux, elles se mettent d'accord. De manière à ce que s'il y a un matin, je suis trop fatiguée pour me lever et faire mes pratiques, eh bien, je me le foute la paix. Mais le lendemain, par contre, ça serait bien de se lever pour continuer parce que c'est comme ça que je garde mon centre aussi. Mais c'est un jeu, tout est un jeu. Tout doit être fun et tout doit être excitant. Et même si on souffre à travers cette exploration et à travers cette incarnation, parce que la matière, c'est de la souffrance, ben c'est le jeu, en fait. C'est comme ça que je passe les niveaux. Donc, je vous souhaite de gagner beaucoup en légèreté, en paix, en dédramatisation de tous ces sujets-là. Ça n'a pas besoin d'être dramatique, ça n'a pas besoin d'être dogmatique, ça a juste besoin d'être ce que vous, vous voulez que ça soit. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. À très vite.